Vous écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM, c'est l'heure de la Méridienne. Dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM Grand Ouest, le professeur Stéphane Servet et le docteur Aline Dolly nous font le plaisir de venir dans nos studios pour nous expliquer ce qu'est la dénutrition et ses spécificités chez les patients atteints de cancer. Ils nous présentent les travaux menés au sein de leur unité de recherche, l'unité N2C Nutrition Croissance Cancer. La dénutrition, la face cachée du cancer, c'est tout de suite sur Radio Campus Tour.
Alors, c'est en fait un déséquilibre entre les besoins énergétiques, les besoins en énergie et les apports en énergie.
Stéphane Servet.
Donc il y a un déséquilibre négatif qui va conduire en fait à une perte de poids involontaire.
D'accord, ok.
Ouais, donc le patient va perdre du poids sans le vouloir et ça va être surtout côté poids, surtout de la masse musculaire. Et c'est bien là où est le problème. Et pour ce qui est des facteurs qui permettent de l'évaluer, eh bien, on a des critères publiés récemment par la Haute Autorité à la Santé, l'HAS, pour l'adulte, hein, pas pour l'enfant, qui sont basés en fait sur le fait que quand on a déjà on est porteur d'une tumeur, on est déjà dans une situation à risque de dénutrition. Mmh. Et après, il faut un autre critère qui va être la perte de poids, par exemple, qui est le critère qui est le plus souvent utilisé en clinique.
Mais si jamais il n'y a rien, il n'y a pas de facteur physique particulier, mais il y a quand même de la... Enfin, comment ça se profile s'il n'y a pas de perte de poids? Mais il y a quand même de la prise de poids de graisse et perte musculaire, enfin, une espèce de...
C'est une excellente question. Et justement, la perte de poids est un indicateur très, très générique et ne reflète pas la composition corporelle.
Ouais, c'est ça.
Effectivement, la variation essentiellement de la masse grasse et... du tissu, la masse grasse et du muscle.
Ouais. Mais du coup, il y a des balances qui sont... Non, il n'y a pas vraiment...
Oui,
de...
les balances impédance-métriques qu'on trouve dans le commerce ne sont pas très fiables.
Ouais, c'est ça, ok.
Par contre, on peut avoir des impédance-mètres un peu plus fiables.
Ok, d'accord.
Mais en clinique, c'est très, très peu étudié.
Ouais, d'accord, ok.
C'est a priori plus simple de peser et puis de demander à la personne combien elle pèse normalement et il y a combien de temps. Que de faire une composition corporelle.
Et du coup, il y avait peut-être d'autres critères du coup, pour la dénutrition ou
Après, à partir du moment où on a un cancer, donc on est dans une situation d'agression, si on a une perte de poids, on a deux critères qui suffisent
qui
pour être
déjà...
classés en dénutri. Et puis après, la sévérité de la dénutrition. L'HAS recommande, en fonction de la sévérité de la perte de poids, et puis on dose aussi l'albumine, une protéine qui est dans le sang. Et donc, si on est en dessous de certaines valeurs, eh bien, on considère que...
C'est aussi une prise de sang,
plus ou moins sévère.
Et du coup, s'il s'agit d'abord d'une perte du muscle et pas de gras, c'est quoi les tissus qui sont atteints, les autres tissus qui sont atteints
Alors,
c'est peut-être... Alors, il y a peut-être en deux questions. Oui, Adeline, si...
Donc, comme disait Stéphane, on sait qu'à la base, la dénutrition, elle est caractérisée par la perte de muscles, de masse musculaire.
Ouais.
Avec ou sans cette fameuse perte de masse grasse. Mais grâce à la littérature, on sait aussi que la dénutrition, elle touche finalement beaucoup d'organes, beaucoup d'autres organes, tels que le cerveau, le foie, les os, le microbiote intestinal, le cœur aussi.
D'accord.
Et donc, finalement, toutes ces altérations finalement sont reliées, toutes ces modifications métaboliques finalement elles sont reliées entre elles.
Et donc
elles sont assez mal comprises finalement encore dans la littérature aujourd'hui.
Et du coup tous les tissus sont atteints. Est-ce que du coup ils rétrécissent aussi? Je sais pas trop. Genre est-ce qu'il y a une espèce de rétrécissement vu qu'il y a une perte de muscle qui peut aussi être de gras? Comment c'est? Je sais pas si vous avez la réponse. C'est une question que je me pose.
Pour le cœur, je crois que oui.
On parle de cachexie
cardiaque, une diminution de la masse cardiaque. Au niveau du foie, je ne pense pas. C'est surtout une augmentation de l'inflammation hépatique.
D'accord.
D'altération hépatique. Voilà, c'est une inflammation hépatique.
Il y a même, je crois, enfin c'est pas je crois, il y a des données qui tendent à dire qu'on a plutôt une augmentation de la masse hépatique.
D'accord, ok.
Okay, donc bah, c'est... Avec l'inflammation, voilà, oui, il y a coup, une infiltration de okay. cellules inflammatoires dans le foie qui fait que ça a tendance effectivement plus à gonfler que okay. à rétrécir. Ouais.
Et du puis coup, pour, la,
allez-y, allez-y.
Pour la, les os, on a une diminution de la densité
osseuse. Osseuse, oui.
D'accord, ok. Donc les os sont plus facilement brisables, on va dire, c'est plus fragile, non
oui.
c'est,
ouais, ça,
voilà. Si on, on utilise des raccourcis, que oui, je ne suis pas un expert, hein, c'est vous les experts. Est-ce qu'il y a des chiffres pour la dénutrition en cancer? Est-ce que les patients atteints dans le cancer sont systématiquement dénutris ou c'est du coup ça dépend vraiment de certains types de cancers peut-être ?
Alors effectivement tout va dépendre du type de cancer
ouais.
parce que tous les cancers ne vont pas provoquer une dénutrition, mm-hmm. une perte de poids donc involontaire, surtout une perte de masse musculaire. Mm-hmm. Et ça va dépendre aussi de l'état d'avancement. Plus un cancer va être avancé, donc on va parler de cancer métastatique.
Ouais.
Dans ces cas-là, on a plus de risques, même avec un cancer qui normalement ne provoque pas de dénutrition, on a plus de risques d'être dénutri.
Okay.
Donc dans les cancers qui provoquent le plus de dénutrition, on va dire même en cancer primaire, ben c'est surtout le pancréas, dans les okay. digestifs, hein, le cancer du pancréas, et le cancer du poumon à non petites cellules. Ce sont les deux cancers qui provoquent le plus de dénutrition.
Il y a deux cancers pour le cancer du poumon, du coup ? Enfin, des poumons ?
Non, il y en a qu'un.
Non, il y en a qu'un.
Il y a
pardon.
Pancréas et poumon à non petites cellules.
Et c'est quoi ça, non petites cellules ?
Bah, c'est le cancer des poumons le plus agressif, en fait.
D'accord, okay. ok.
Voilà. Et donc.
Il y a peut-être aussi, ouais, au niveau de l'âge, du sexe, peut-être aussi des différences. Parce que du coup, ce type de cancer, il y a peut-être.
Alors. C'est un peu. Oui, c'est intuitif. Il n'y a pas beaucoup de travaux. On ouais. sait, par exemple, homme-femme, on n'a pas la même composition corporelle. Donc, ouais. on se doute qu'il va y avoir des différences en ouais. termes de dénutrition. Mm-hmm. Mais il n'y a pas beaucoup de travaux. Enfin, en tout cas, on a cherché
qui
récemment.
Ouais, qui ont été
pas
faits,
beaucoup
ouais.
de travaux qui ont été faits là-dessus. Pour ce qui est de l'âge, ben, de toute façon, le cancer reste quand même une maladie de personnes âgées. Mmh, entre okay. 60 et 70 ans, hein,
okay.
Le pic pour le risque de cancer. Mmh. Donc, il y a forcément une différence entre des jeunes
ouais.
et les personnes âgées.
Oui, du coup, c'est principalement chez les hommes que ça a été fait, toutes ces recherches dans les hommes âgés plutôt.
Bah, en fait, quand on fait des études cliniques, de toute façon, on prend les patients qui arrivent, donc
oui.
ils sont forcément de l'âge
ouais.
et la répartition homme-femme. Qu'on trouve dans les hôpitaux.
Ouais, carrément. Donc, okay.
Mais la dénutrition est encore assez mal diagnostiquée.
Ouais, c'est peu étudié, ouais.
C'est, on utilise la perte de poids,
ouais.
qui ne reflète pas toute la complexité de la pathologie.
Mmh.
Et donc, il est assez difficile d'avoir des chiffres précis, parce que toutes les études qui ont essayé de pouvoir produire des chiffres de prévalence de la dénutrition en fonction du cancer, eh bien, ils utilisent des définitions de dénutrition qui sont différentes.
Okay.
Chacun utilise la sienne, donc pour
ouais.
faire une synthèse,
c'est un peu compliqué.
Ce qui est sûr, c'est que donc, pour les deux cancers dont on a parlé, pancréas et poumons à non petites cellules, en fait, c'est des cancers qui sont très agressifs.
Mm-hmm.
Ce n'est pas les plus fréquents, mais ils sont vraiment très agressifs. Et ce qui amène les personnes à consulter les patients, entre autres pour le cancer du pancréas, c'est la perte de poids involontaire. Donc
ouais.
ils vont aller chez leur médecin,
mmh.
et au fil des examens, on va leur diagnostiquer un cancer. Donc
okay.
en fait, la plupart du temps, au moment du cancer, il y a plus de 50% des patients qui sont déjà dénutris.
D'accord, ok. Parce que c'est comme ça qu'on repère limite le cancer, en fait, voilà. quand il arrive. Okay.
Pourquoi est-ce que la dénutrition vient compromettre les chances de guérison, enfin en tout cas d'amélioration de l'état de santé d'un patient ou d'une patiente?
En fait, ce qu'on sait, c'est que le dosage des traitements anticancéreux, en particulier la chimiothérapie, est généralement basé sur donc, le poids ou la taille des patients.
Mmh.
Comme on le disait plus tôt, le poids, par exemple, ne reflète pas, la taille non plus, ne reflète pas la masse musculaire. Et on sait aussi que la masse musculaire, elle affecte la pharmacocinétique du traitement, donc c'est-à-dire son devenir, le devenir du principe actif dans l'organisme, son absorption, son élimination, et que certains patients pourraient avoir en fait un surdosage ou un sous-dosage des traitements. Et cela a pour conséquence donc une diminution de l'efficacité des traitements et une augmentation surtout de leur toxicité. Et vu que les traitements sont plus toxiques, certains patients arrêtent même leur traitement en cours de route parce que les effets secondaires sont beaucoup trop importants. Et ce qu'il y a à noter aussi, c'est que les patients dénutris, vu qu'ils perdent beaucoup de poids, beaucoup de masse musculaire, ils se retrouvent aussi plus fatigués. Et forcément, ça affecte aussi l'efficacité des traitements anticancéreux et le fait d'aller jusqu'au bout ou non du traitement.
Alors peut-être qu'on peut dire aussi, on peut être dénutri et en surpoids, c'est pas forcément lié. Ouais.
Parce que quelqu'un qui est, c'est même ça d'ailleurs le danger, c'est que les personnes obèses peuvent avoir une dénutrition cachée, parce qu'on peut voir qu'ils ne perdent pas de poids, mais en fait ils peuvent perdre de la masse musculaire. Et donc ils peuvent être effectivement dénutris sans que ça se voit, parce que juste avec une pesée normale, on ne voit pas qu'il a perdu du muscle et donc qu'il est dénutri en réalité, vu qu'actuellement le poids est le critère pour diagnostiquer la dénutrition chez ces patients.
Il y a aussi un élément qui est important, c'est que quelqu'un qui est en surpoids ou en situation d'obésité et qui perd du poids, il va plutôt être content de perdre du poids.
Ah, oui.
Ça va retarder le diagnostic.
Mais du coup, est-ce que c'est des effets irréversibles? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a perdu de la masse musculaire, est-ce qu'on peut caresser l'espoir de la retrouver, même après l'épisode, disons, le plus difficile d'un cancer? Est-ce que les gens peuvent se remplumer? Pardon pour le vocabulaire, mais du coup...
En fait, la difficulté, c'est qu'il y a très très peu de données là-dessus, sur le fait que la dénutrition finalement a des effets irréversibles sur l'organisme, parce que la dénutrition touche beaucoup les personnes à un stade avancé de cancer, et malheureusement, la plupart des personnes avec un stade avancé de cancer ne guérissent pas du cancer, donc il y a finalement très peu de données cliniques qui ont étudié les personnes en rémission d'un cancer et en rémission d'un cancer et d'une dénutrition.
Ce qu'on a dit précédemment, c'est que les différentes études qui ont essayé de déterminer les prévalences de la dénutrition dans les différents types de cancers, dans différents pays, etc., et bien, ils ont utilisé des définitions de dénutrition pour classer les patients dénutris ou pas dénutris. Ils ont utilisé des définitions différentes. Et donc, c'est très difficile de pouvoir faire une synthèse. On peut donner une fourchette quand même. Donc, comme on l'a dit, pancréas et poumons à non petites cellules, c'est deux cancers où on peut être entre 50 et 70% à peu près de prévalence de dénutrition.
Voilà, je pense que s'annonce à l'horizon une pause musicale. Donc, c'était un choix de nos invités. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter?
With My Own Two Hands de Ben Harper.
Voilà, je fais grâce aux auditeurs de mon excellent accent anglais, et peut-être, auditeurs, vous écoutez-nous depuis la cafétéria du restaurant universitaire de l'IUT. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Oh, with my own, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. We'll be right back.
my own, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. Oh, make it a brighter place. I can hold you and I comfort you. But you got to, 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 got to use. I'll use your own. Oh, use your own, Lord.
La dénutrition, la face cachée du cancer, émission en partenariat avec l'INSERM, en studio avec moi Adeline Dolly et Stéphane Servet, donc deux chercheurs de l'unité de recherche N2C. Merci à Antoine d'avoir réceptionné les invités, puisque, chers auditeurs, vous l'avez compris, quelques aléas sur mon parcours jusqu'à la radio. Qui dit cancer, parfois dénutrition, on parle aussi d'anorexie. Alors tout d'abord, c'est quoi l'anorexie ? Parce que c'est une notion dont on entend parler peut-être vaguement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donc vous, qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Déjà, je commencerai par dire qu'effectivement, dans le cadre de la dénutrition, il y a souvent de l'anorexie. Donc c'est une composante de la dénutrition. Alors, l'anorexie, c'est une diminution de la prise alimentaire, tout simplement. Et les mécanismes entre un patient porteur d'un cancer et d'autres anorexies qui sont connues comme l'anorexie mentale sont très différents. Et donc, cette anorexie, dans le cadre du cancer et de la dénutrition, est lié en fait au choc psychologique de l'annonce. Hein. Bien sûr, il y a quand même, c'est jamais plaisant d'apprendre qu'on a un cancer. Et puis aussi, donc la tumeur produit des molécules qui vont perturber en fait le système nerveux, le cerveau, pardon, et ça va déréguler la régulation de la prise alimentaire. Et donc les personnes vont avoir moins faim. Ça va aussi provoquer une perte de goût, par exemple, et changer les goûts. Et donc tout ça va conduire à une diminution de la prise alimentaire. Et ça va participer à cette balance des apports plus faibles, mais des dépenses qui vont rester élevées. Et donc une perte de poids et une perte de muscle.
Alors est-ce que les traitements anticancéreux font maigrir, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a aussi cet effet-là ?
Oui, en effet, on sait que certains traitements anticancéreux, en particulier chimiothérapie, radiothérapie, peuvent aggraver la dénutrition induite par le cancer. En cause, par exemple, les effets secondaires, tout simplement, des chimiothérapies, des traitements, tels que la nausée, les vomissements, l'inflammation de l'épithélium buccal, la modification du goût, qui font que les patients ont moins envie de manger, mangent moins, et donc perdent du poids et perdent en particulier la masse aussi musculaire. Et on sait aussi que les traitements peuvent directement affecter la masse musculaire, entraîner des altérations métaboliques de la masse musculaire, et donc aggraver d'autant plus la perte de la masse musculaire et donc la dénutrition.
Voilà, et alors quand il est question de cancer aussi, de cellules cancéreuses, on parle d'inflammation. Alors est-ce que vous voulez nous expliquer ce mécanisme et pourquoi là aussi ça peut entraîner une perte de poids ?
Oui, alors, donc effectivement, il y a, dans le cadre de la dénutrition, c'est souvent associé à une inflammation. Et cette inflammation, en fait, c'est la réponse de l'hôte, donc du corps humain, à la présence d'une tumeur. Donc, les cellules vont produire des anticorps. Il va y avoir une inflammation pour essayer d'éliminer la tumeur. Et puis, la tumeur va elle-même sécréter des molécules. Et pour essayer d'éviter de se faire éliminer. Et si on parle beaucoup de l'inflammation dans le cadre de la dénutrition, c'est pas l'élément principal, parce qu'il y a pas mal d'études qui ont essayé justement d'inhiber l'inflammation avec des anti-inflammatoires spécifiques, etc. Et les résultats sont quand même assez faibles en termes de masse musculaire ou de fonction musculaire. Donc L'inflammation a un rôle, hein, c'est une communication entre la tumeur et ça va perturber pas mal de cellules, de fonctionnement de cellules, mais c'est pas suffisant pour expliquer la dénutrition.
Et alors, il est question aussi de cachexie cancéreuse. Alors attention, on sort les mots précis. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer de quoi il est question et est-ce qu'on peut dire que c'est une forme grave et spécifique au cancer de dénutrition?
Déjà, très longtemps, le terme cachexie il a été utilisé pour désigner le stade ultime, la forme la plus sévère de la dénutrition. Alors que maintenant, on sait qu'une définition a été publiée dans la littérature par un groupe d'experts qui introduit le concept d'une évolution progressive en fait, de la dénutrition avec trois états de dénutrition, la pré-cachexie, la cachexie et la cachexie réfractaire qui, elle, est le stade final de la cachexie. Et l'idéal étant de détecter cette dénutrition, cette cachexie le plus tôt possible, mais ce qui est pour l'instant pas évident, voire impossible actuellement avec les outils actuels qu'on utilise pour la diagnostiquer et j'allais dire la guérir, mais non.
Voilà, donc il me semble que vos travaux portent sur des patients donc, qui sont déjà atteints par le cancer, donc qui ont eu ce diagnostic, donc je le dis puisque plus tard dans l'émission on va pouvoir se pencher plus en détail sur vos travaux. Alors si on veut prévenir la dénutrition, puisqu'on sait maintenant voilà, que vous en avez dit plus sur de quoi il s'agit, mais qu'est-ce qu'on fait actuellement pour prévenir cet état de dénutrition? Comment on informe le patient avant le début du traitement, en fait, au moment du diagnostic? Vers qui on peut l'orienter, quelles informations on peut lui donner?
Alors, juste pour préciser, effectivement, on a fait quelques études cliniques et en fait, on se sert d'informations de diagnostic de cancer pour pouvoir déterminer s'ils sont dénutris ou pas. Donc, effectivement, les patients ont déjà un cancer. Alors, pour répondre à la question sur la prévention de la dénutrition, eh bien... les professionnels qu'il faut consulter, bien, c'est les médecins nutritionnistes, bien sûr, et les diététiciens nutritionnistes. Ce sont les seuls professionnels qui peuvent donc conseiller les patients. Hein, ils vont donner des conseils au quotidien et vont adapter en fait toutes les recommandations nutritionnelles hein, en fonction de chaque patient, parce que tout patient est bien sûr différent. À partir du moment où le patient arrive à l'hôpital et qu'on lui diagnostique le cancer, et s'il est déjà dénutri, on ne peut pas vraiment prévenir la dénutrition, mais on peut essayer de rétablir son état nutritionnel pour qu'il soit dans des conditions optimales pour pouvoir suivre son traitement, une chirurgie par exemple, ou la chimiothérapie. Et donc ça, ben, c'est donc avec le médecin nutritionniste et les diététiciens qui vont avoir différentes stratégies. Et conseiller, par exemple, d'enrichir l'alimentation. Donc l'enrichissement de l'alimentation, c'est avoir plus de calories dans un volume minimum et plus de protéines, parce que si on veut sauvegarder le muscle, il faut des protéines. Donc on va enrichir avec du fromage, de la crème, des œufs, etc. Et si ça ne fonctionne pas, on va passer à compléments nutritionnels oraux, qui sont en fait des crèmes ou des boissons qui sont hyper énergétiques, donc riches en calories et très riches en protéines aussi. Et il arrive que ça ne suffise pas pour améliorer l'état nutritionnel des patients. Et dans ce cas-là, on va passer à une nutrition artificielle qui va être, on parle de nutrition entérale. Donc on utilise une sonde qui utilise encore le système digestif s'il est encore fonctionnel. Et on va faire passer un mélange... qui sera hyper calorique et aussi hyper protéique. Et enfin, dans le dernier recours, si ça ne fonctionne pas, il y a encore la nutrition parentérale qui, elle, passe par le système sanguin et qui va aussi permettre d'essayer d'améliorer l'état nutritionnel.
Mais alors, ces autres façons de nourrir une personne, l'idée, c'est qu'elle s'arrête un moment, que la personne puisse remanger. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il y a des cas où les personnes continuent à avoir plusieurs types d'alimentation?
Alors effectivement, l'idéal, c'est de que l'enrichissement suffise ou que même les CNO, hein, les compléments nutritionnels oraux, soient suffisants pour rétablir l'état nutritionnel. Mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas. De toute façon, la prise en charge nutritionnelle, malheureusement, dans les cas où la dénutrition est déjà bien installée, c'est très compliqué de rétablir l'état nutritionnel. Après le traitement ou une chirurgie, je pense qu'effectivement, il y a certains patients qui peuvent avoir encore des troubles du comportement alimentaire et ça peut être encore difficile d'améliorer son état nutritionnel. C'est une prise en charge pluriprofessionnelle avec des psychologues, par exemple, et des diététiciens.
Voilà, et donc dans une situation comme celle-là, donc une atteinte physique et donc morale aussi, sûrement, comme vous le disiez, c'est compliqué de s'entendre annoncer qu'on a un cancer, évidemment. Du coup, peut-être que des fois, des personnes qui sont un peu désespérées peuvent se tourner vers des médecines, disons, alternatives, qui semblent pleines de promesses, en tout cas, qui proposent quelque chose de moins douloureux que la médecine traditionnelle. Qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être de ces propositions de jeûnes, de potions de plantes et de rituels divers?
C'est vrai que j'avais entendu parler du jeûne avant les traitements anticancéreux, par exemple, et je ne sais plus si c'était pour purifier l'organisme ou...
Alors en fait, le jeûne, effectivement, on trouve beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet. Ça, c'est les informations sur Internet et même dans des journaux scientifiques. Et il y a une expertise qui a été faite par le réseau NACRE. Donc NACRE, le réseau, c'est nutrition, activité physique et cancer. C'est un réseau auquel participe notre unité de recherche. Et son rapport d'expertise a été fait en 2017 sur justement les pratiques de jeûne et de régimes spéciaux et cancer.
Et ce qu'ils ont montré, c'est finalement, actuellement, il n'y a aucune preuve clinique d'un effet bénéfique du jeûne, notamment avant les traitements anticancéreux, et qu'il est même fortement déconseillé de jeûner. Lorsqu'on est dénutri, parce que cela peut tout simplement aggraver la dénutrition, la perte de poids et la perte de masse musculaire. Et donc, il est recommandé, finalement, d'en parler aux médecins nutritionnistes ou aux diététiciens avant de commencer tout régime spécial ou tout jeûne, par exemple, parce que ce sont des personnes qui pourront accompagner et conseiller au mieux les patients.
Alors dans les régimes, effectivement, il y a le jeûne. Il y a aussi le régime cétogène qui est très à la mode un peu partout, hein, pour perdre du poids, etc. Et justement, le problème du jeûne et du régime cétogène, c'est que si quelqu'un qui est déjà dénutri va effectivement risque d'accentuer la perte musculaire. Et donc, vraiment, les recommandations qu'a donné le rapport des experts, c'est qu'on ne peut pas interdire aux gens d'essayer d'avoir une prise sur leur maladie. Et par contre, on peut leur expliquer que c'est peut-être pas bénéfique pour eux et que si vraiment ils veulent le faire, eh bien là, il faut vraiment en parler aux médecins nutritionnistes et aux diététiciens pour se fixer des limites. Hein, parce que quand on fait un jeûne, on peut perdre du poids, etc. Donc se fixer des limites et puis être accompagné pour bien faire les choses et que ça ait potentiellement un effet bénéfique. Ça, on ne sait pas, mais au moins le moins d'effets négatifs possible.
Mais est-ce que c'est possible aussi que des personnes soient dans une telle douleur morale, en fait, qu'elles ne puissent pas entendre?
Oui, bien sûr. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que la consigne, c'est, ça a été de dire aux médecins et aux professionnels de la nutrition, donc les diététiciens, de ne pas condamner les gens en leur disant c'est n'importe quoi, mais de dire vous pouvez le faire, mais il faut quand même. Ça présente des risques, il faut prendre quelques précautions. Donc on va vous suivre pour être sûr que tout va bien.
Mais après, on s'écarte peut-être un peu du sujet, encore que, c'est-à-dire que comment en tant que soignant, ou en tout cas professionnel de santé, on peut aussi se dire qu'est-ce qui est de ma responsabilité ou pas. En fait, si on a un patient qui refuse d'entendre...
La liberté du patient, hein, C'est, on peut pas, là, si un patient veut faire tout seul son jeûne ou son régime cétogène ou prendre des herbes, etc., eh ben, on ne peut pas l'interdire. C'est sa liberté.
Voilà, mais alors ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit attesté quelque part, que c'est le choix délibéré du patient.
De toute façon, le patient, une fois chez lui, il fait ce qu'il veut avec tout ce qu'il a vu sur YouTube et Internet, quoi.
Il ne va pas forcément le dire, oui, effectivement, voilà, aux professionnels qu'il compte faire ça. Aussi, peut-être par peur du jugement, peut-être. Et donc, il ne va pas forcément indiquer aux diététiciens ou qu'il compte faire ce genre de régime. Tout est compliqué.
Voilà, merci en tout cas de le rappeler, que rien n'est simple en matière de santé.
Même les preuves. Enfin, normalement, il y a des études cliniques qui sont en cours pour essayer de montrer si effectivement ce type de régime, le jeûne, le régime cétogène ou d'autres choses, serait favorable pour lutter contre le cancer, on va dire en général. Bien, c'est pas si simple que ça de faire des études cliniques, parce que en médecine, en science, on fait des études en double aveugle, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun biais. Mais à partir du moment où on prend un régime cétogène, par exemple, un groupe a un régime cétogène et un autre pour un régime contrôle, il faut arriver qu'il n'y a pas un biais et que les gens ne sachent pas qui c'est eux qui ont le régime, qui est censé être le régime qui fait un effet positif. Sinon, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais c'est pas grave, à la rigueur, l'effet placebo.
Je vous propose de faire une seconde pause musicale, toujours de votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ?
On avait proposé Photomaton de Jabberwocky. Ça se prononce bien comme ça.
Je vous fais toute confiance pour la prononciation anglaise. Alors on écoute ça dans la Méridienne sur Radio Campus Tour.
Right.
venons d'écouter Jabberwocky Photomaton sur Radio Campus Tours, c'est la Méridienne, et vous écoutez nos deux invités, rappelons-le, c'est Adeline Dolly et Stéphane Servet. Nous parlons de la dénutrition, la face cachée du cancer. Alors, peut-être qu'on peut se pencher à présent sur vos recherches. Alors, est-ce qu'on peut dire que vos recherches s'attellent à comprendre les mécanismes à l'œuvre dans la dénutrition? Et si oui, lesquels et comment?
Pour répondre à cette question, je vais parler en particulier de notre dernière publication, donc on a publié l'an dernier, en début d'année dernière, et où nous étudions plusieurs paramètres dans le muscle squelettique de patients atteints d'un cancer pancréatique ou colorectal. Et donc on a récupéré des prélèvements sanguins, on a récupéré des biopsies musculaires. Et ce qu'on a étudié, ce sont donc plusieurs paramètres, dont en particulier des paramètres mitochondriaux, la mitochondrie qui est finalement la centrale énergétique de la cellule de manière générale, et qui est très très peu étudiée, qui n'a jamais été étudiée même auparavant dans des biopsies musculaires humaines. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait des altérations de cette centrale énergétique chez les patients qui étaient dénutris et atteints d'un cancer pancréatique ou colorectal. Donc ça, c'est dans un premier lieu donc les paramètres, les mécanismes donc en œuvre dans la dénutrition. Mais ce qu'on a également publié en 2020, c'est une revue de la littérature donc, qui fait un état des lieux sur l'étude du muscle squelettique dans le contexte de la dénutrition induite par le cancer. Et c'est ce qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'interview. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que toutes les études cliniques qui étudient le muscle chez les patients dénutris n'utilisent pas les mêmes critères pour définir la dénutrition. Et ce qui fait vraiment qu'il est très difficile de comparer les conclusions de cette étude clinique et donc de pouvoir vraiment dire à l'heure actuelle quelles sont les... On peut dire grossièrement les mécanismes en œuvre, mais précisément c'est très difficile de comparer les études cliniques et de pouvoir dire il y a 10 études qui ont montré la même chose. Non, parce que finalement, ils n'ont pas utilisé les mêmes critères pour pouvoir dire tel patient est dénutri, tel patient n'est pas dénutri. Et puis chaque étude clinique étudie en général un seul paramètre en particulier. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire, on va dire.
Alors peut-être, voulez-vous nous dire un mot sur le protocole, comment vous avez obtenu toutes ces données? Donc vous avez parlé de prélèvement de muscles, oui. Donc c'est combien de patients comment vous avez fait le prélèvement, comment ça se passe, comment on fait après pour analyser dedans, voilà, pour que nos auditeurs comprennent bien en fait que c'est vraiment pour que les données soient fiables, il y a quand même tout un protocole à suivre.
Oui, il y a tout un protocole à suivre. Il y a beaucoup de personnes. Bon, forcément, c'est pas nous qui avons prélevé les biopsies. Forcément, c'est des médecins chirurgiens. Donc, cette étude en 2022, on avait inclus 45 patients. Donc, c'était 30 hommes et 15 femmes. Donc atteint d'un cancer pancréatique ou colorectal. C'était des patients qui venaient d'être diagnostiqués pour leur cancer et qui étaient programmés pour une pause de chambre de chimiothérapie, donc au niveau du muscle pectoral. Et donc au moment de la pause de la chambre, le chirurgien récupérait une petite biopsie de muscle squelettique pectoral. Et qui nous transférait avec des échantillons sanguins. Et ensuite, c'était moi personnellement qui récupérais les biopsies et les échantillons sanguins. Je retournais au labo pour ensuite réaliser toutes les analyses, pour analyser tous les paramètres en lien avec la dénutrition.
Voilà, donc juste dire que, peut-être cette chambre implantable, donc un PAC, c'est un dispositif qu'on met sous la peau des patients qui permet, disons, de piquer, parce qu'il y a quand même beaucoup de traitements injectables. Donc de piquer, disons, toujours au même endroit, sans endommager, je ne sais pas, le réseau veineux, oui. ou la peau, en tout cas, des gens.
C'est ça. Et ça permet donc aussi, éventuellement, de faire passer de la nutrition parentérale.
La fameuse. On y revient. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc, une fois que vous avez ces biopsies, vous les analysez, et c'est-à-dire que vous allez mettre en place une énorme base de données, oui. Avec une fiche par patient. Enfin, comment vous faites
Donc après toutes les analyses, oui, on se retrouve avec une...
Alors, tout est anonymisé déjà.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, effectivement, tout est anonymisé.
Et le protocole avait été validé, donc ça a été porté par le CHU de Tours. On a travaillé avec la direction de la recherche et de l'innovation clinique du CHU de Tours. Et tout a été validé par le comité d'éthique et le comité de protection des patients. Déjà. Donc, effectivement, on a toutes les données qui ont pu être récupérées quand on a défini le protocole de départ, taille, poids, perte de poids, etc., ont toutes été anonymisées et tout a été mis dans une base de données pour pouvoir après corréler avec, enfin pas corréler, mais étudier avec tous les paramètres que nous avons mesurés sur le muscle et sur le sang.
Voilà, et donc est-ce que je me trompe si je dis que c'était l'objet de votre thèse, Adeline Dolly, ce travail ?
C'était l'objet de ma thèse.
Voilà, c'est ça. J'avais peur de faire une fake news. mais voilà, donc peut-être aussi de rappeler que c'est du temps long en fait pour faire toutes ces recherches. C'est pas comme ça, ça vous prend pas un matin de dire tiens, on va faire plein de prélèvements et puis advienne que quoi.
Ah non, c'est 4 ans de thèse.
Voilà, 4 ans.
Sachant qu'il y avait 2 études cliniques.
Oui. Mmh. Parce que là, on parlait d'une publication, donc la publication qu'on a publiée sur les cancers colorectaux et pancréatiques, mais en parallèle, on avait une deuxième étude clinique dont on n'a pas encore publié les résultats, c'est toujours en cours d'analyse, qui, elle, portait sur les cancers gynécologiques. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que les cancers majoritairement, avec la plus grosse prévalence de dénutrition, c'est les cancers digestifs, en particulier le pancréas, mais il y a des cancers gynécologiques, et en particulier le cancer de l'ovaire, qui a aussi une très importante prévalence de dénutrition. Et donc voilà, cette deuxième étude clinique portait sur des cancers de l'ovaire et de l'endomètre.
Voilà, et donc ça veut dire qu'une fois que vous avez fait une base de données pour chacune de ces études, comment vous croisez les résultats en fait ? Est-ce qu'à un moment vous pouvez dire, est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux études, comment ça se passe ?
Alors on s'est pas trop encore posé la question de pouvoir croiser les deux études, parce que c'est vrai que c'est des populations complètement différentes. L'étude sur les cancers gynécologiques, donc il n'y a que des femmes.
Oui.
Et il y a une proportion d'obésité qui est supérieure à l'étude qui était sur le cancer du pancréas et cancer colorectal.
Oui, parce que les patients avec un cancer colorectal ou pancréatique sont en général très peu obèses, alors que les patientes avec un cancer de l'endomètre en particulier étaient très régulièrement obèses. Donc ça fait partie aussi de l'étude clinique d'analyser l'impact de l'obésité sur la dénutrition.
Donc ça veut dire aussi que ces résultats que vous pouvez extraire de ces deux études, c'est comme un meuble à tiroir en fait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être trouver d'autres analyses, peut-être que ça va enrichir d'autres recherches, d'autres chercheurs, comment ça marche ?
C'est exactement ça.
C'est le but de la recherche, c'est effectivement d'apporter des nouvelles connaissances pour que d'autres chercheurs puissent confirmer ou lancer d'autres pistes. Et puis c'est aussi pour nous aussi, qu'on puisse lancer d'autres pistes. Et c'est vrai que ce qu'on a, la publication, hein, c'est vraiment la toute première fois où on a étudié chez l'homme avec un grand H, hein, plusieurs paramètres sur une biopsie musculaire et dont les paramètres de la centrale énergétique de la cellule. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et le tout, c'est que ces deux études cliniques sont des études pilotes. On a des petits nombres, hein, 45. Et puis
l'étude sur les cancers gynécologiques, on avait inclus une soixantaine de patientes.
Ouais. Donc pour des études cliniques, c'est assez peu. Il y a beaucoup de variabilité entre les patients, c'est normal. Hein. Donc on considère ça comme des études pilotes. Et on espère que soit on va trouver vraiment quelque chose de très important qui va nous permettre de passer à une étude de plus grande ampleur, soit c'est quelqu'un d'autre qui va saisir de ces données et qui va le faire.
Donc ça veut dire si, par exemple, une autre unité INSERM, en tout cas une unité de chercheurs, souhaitait reprendre vos protocoles ailleurs, en fait, dans un autre contexte, dans une autre réalité, on va dire, géographique, sociale, culturelle, c'est-à-dire, par exemple, dans un endroit où on mange différemment, ça veut dire que ça pourrait alimenter votre étude. Comment ça marcherait, en fait ? Est-ce que ça donnerait des résultats différents, intéressants, je ne sais pas. Pas du tout, peut-être.
Forcément, ça va donner des résultats qui peuvent être différents ou les mêmes. Si ça conforte ce qu'on a pu montrer, nous, ça va amener des billes supplémentaires pour pouvoir aller plus loin. Si c'est des résultats sont différents, effectivement, ça peut être aussi, si on prend des pays en Asie ou ailleurs, où la culture est différente, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça brouille un peu les pistes, à terme.
Et en tout cas, ça ne permet pas peut-être d'avancer sur des traitements pour notre aire géographique, du coup, si on le déplace ailleurs.
Après, il faut que ce soit vraiment des cultures très très différentes. Hein. On va dire que l'Occident, au sens large, on est à peu près... on peut à peu près comparer les études en Occident.
Et du coup, cette découverte que vous avez faite sur les mitochondries, comment ça peut, disons, orienter de futurs travaux sur d'éventuels traitements ou préventions? Comment vous...
Alors, en fait, déjà maintenant, ce qu'il faut qu'on essaye de cerner, c'est comment cette altération de la mitochondrie, si c'est à l'origine du dysfonctionnement musculaire, de la fonction de la cellule, et ce qui fait qu'il y a une fonte musculaire, ou si c'est une conséquence. Et dans les deux cas, il faut arriver à trouver des stratégies différentes. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est... Parce qu'on a pris les patients à un instant T, donc quand ils ont eu la pose de la chambre implantable. Donc on a récupéré cette biopsie et ils étaient dans un état de dénutrition tant de jours après le diagnostic. Donc on ne peut pas savoir si c'est le dysfonctionnement des mitochondries qui participe à la fonte musculaire, ou si c'est un autre phénomène qui provoque en partie la fonte musculaire et qui agit sur la mitochondrie, qui va amplifier la fonte musculaire. Ce qui est sûr, c'est que la mitochondrie produit l'énergie dans la cellule et qu'il y a un dysfonctionnement de la mitochondrie. Donc là, en l'occurrence, ce qui a été observé, c'est un gaspillage d'énergie, c'est-à-dire que la mitochondrie va produire moins d'énergie et consommer plus de substrat, enfin plus d'aliments, on va dire, pour vulgariser. Et ça crée un stress dans la cellule et ça peut provoquer donc des réponses anormales dans le muscle et pourquoi pas augmenter la dégradation du muscle.
Il faut voir également comment ces altérations de la mitochondrie jouent sur les autres altérations de la cellule musculaire, mais aussi sur les autres organes, puisque comme on disait, la dénutrition, elle touche plusieurs organes, pas seulement le muscle, même pas seulement la masse grasse, il y a aussi le foie, le microbiote... le cœur et tout ça. Donc il faut voir, enfin, parler de traitement, c'est aussi très compliqué parce que un traitement ciblé sur le muscle, ça sera pas forcément suffisant vu toutes les altérations qu'il y a sur les autres organes. C'est aussi ça la difficulté de cette pathologie.
Et actuellement, c'est les thérapies qui sont en test, en essai clinique pour lutter contre la dénutrition et principalement contre la fonte musculaire, sont des thérapies qui ciblent en fait le système de régulation de la masse musculaire avec la myostatine et les récepteurs à la myostatine. C'est une hormone en fait qui régule la masse musculaire et avec des molécules qui empêchent la molécule de se fixer sur son récepteur ou des agonistes ou des antagonistes, peu importe. Donc ça marche très très bien sur les modèles animaux. Et donc il y a des études cliniques en cours qui prennent en compte que le muscle, effectivement, et pas les autres tissus. Et il y a même une étude internationale qui a été menée, parce qu'on parle maintenant plutôt d'études multimodales, enfin de prise en charge multimodale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner que des protéines, on ne peut pas donner que des anti-inflammatoires. C'est tellement complexe, la dénutrition, qu'il faut, il faut taper un peu partout tout ce qu'on connaît. Donc il y a les oméga-3, donc les acides gras oméga-3, il y a effectivement un enrichissement en protéines, et pas mal de choses. Et maintenant, on commence à ajouter l'activité physique adaptée. Mais l'étude internationale qui a été menée, c'était avec un médicament qui permet d'augmenter la prise alimentaire. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que ça maintenait la masse musculaire. Par contre, ils ont fait des tests fonctionnels. Donc les personnes ont fait des tests pour savoir comment fonctionnaient leurs muscles. Et en fait, ils n'ont pas amélioré leur fonction musculaire. Donc même... faire une stratégie thérapeutique pour maintenir la masse musculaire ou l'augmenter, c'est même pas suffisant parce qu'il faut que le muscle soit fonctionnel. Donc on va encore un peu plus loin et donc c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué et que la prise en charge multimodale amène maintenant à effectivement de l'activité physique adaptée, en plus de tout le reste.
Où est-ce qu'on peut retrouver vos travaux si d'aventure nos auditeurs veulent lire plus en détail?
Juste en tapant sur Google, tout simplement, quand on tape nos noms et prénoms et on va dire quelques mots-clés, je crois que juste en tapant nos noms, prénoms et cachexie, je crois que ça suffit. Bon, plutôt en anglais, parce que nos publications sont forcément, vu que c'est international, tout est rédigé en anglais. Donc juste avec Cacaxia et nos noms, les publications sont retrouvées.
Voilà, et on les mettra aussi en lien sur le podcast de l'émission pour ceux qui n'auraient pas le courage de chercher ça sur les internets. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à Radio Campus pour parler de dénutrition et de cancer. Donc je vois qu'il est 11h55. Quel sera votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour terminer cette émission?
Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que la dénutrition a un impact sur l'efficacité des traitements et la survie des patients. Et que malheureusement, c'est encore un syndrome qui est assez mal diagnostiqué. Et que, entre autres, ce qu'on n'a pas dit, nous avons dans nos études cliniques utilisé une technique. On a été formé à cette technique au Canada, hein, chez Vicky Barakos, la scientifique mondiale qui est reconnue mondialement là-dessus. Et donc on utilise les scanners de diagnostic et on détermine la masse grasse et la masse maigre, enfin et la masse musculaire sur ces scanners. Comme ça, il n'y a pas d'examen supplémentaire à faire et ça permet de déterminer déjà si les patients sont dénutris ou pas. Et d'aller un peu plus loin, savoir la qualité de la masse musculaire. Et donc, on a aussi, en plus des mécanismes qu'on a développés, on essaye de développer un peu ça ici. Et j'ai formé des étudiants au sein du laboratoire pour qu'ils puissent aussi utiliser cette technique.
Donc, on espère que cette interview aura aussi sensibilisé les auditeurs à la dénutrition, parce que c'est tellement méconnu, même du grand public. Donc, on espère que ça aura permis de faire connaître un peu mieux cette pathologie complexe.
Mais bien, merci encore et surtout n'hésitez pas à revenir si d'aventure vous souhaitiez faire une émission bis sur le sujet. Là, vous êtes les bienvenus.
Alors, on aura un sujet à proposer, je pense, dans pas si longtemps que ça, sur la dénutrition en oncopédiatrie, parce que là, il y a encore moins de choses qui sont connues.
Bon, eh bien, le rendez-vous est donné pour la nouvelle émission sur la dénutrition en oncopédiatrie. Merci Adeline Dolly et Stéphane Servet. Donc vous êtes ici dans cette méridienne dans le cadre de notre partenariat avec l'INSERM. On remercie aussi Jean-Michel Escoffre qui permet la mise en place de ces émissions. Alors on se quitte avec une dernière musique, encore un de vos choix musicaux. Alors que va-t-on écouter?
Donc U2, Beautiful Day pour bien terminer cette émission.
Voilà, bonne journée à tous et à toutes à l'écoute de nos émissions évidemment. 99.5 FM, émission à retrouver aujourd'hui même à 17h et en podcast sur notre site radiocampustour.com. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return.